Hi. Hi.
Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, 17 mars 2012, pour ce temps d'échange et de débat qui vient en point d'orgue de la programmation d'art visuel que vous avez pu découvrir tout au long de cette semaine au studio de la Friche Label de Mai, une programmation intitulée Contemporaine. Et dont le commissariat était partagé par l'association La Collective et Saphir, galerie nomade, autour d'œuvres de Claire Danzer, de Gasque Démolition, de Mégalo, de Javiera Tejerina Rizzo, de Mélanie Terrier, d'Emmanuel Saroui et de Françoise Semiramoth. Une table ronde et une programmation qui venaient bien sûr aussi en écho à la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Mais ça n'est pas de cette programmation dont je vous propose que nous parlions, mais plutôt à partir d'elle, des questions et des expériences qu'elle réunit ou qu'elle suscite, et notamment à propos du rôle et de la place des femmes dans la création contemporaine. Vaste question, pour en incarner quelques-unes des problématiques, un plateau vaste, lui aussi, en tout cas le reflet d'une pluralité, d'une diversité, c'est le moins qu'on puisse faire en regard d'une telle question. Je vous présente sans tarder les intervenantes et intervenants de ce débat. Françoise Donadieu, écrivaine, qui est membre du comité de rédaction de la revue des Archers et de la revue Phénix, où elle glisse parfois quelques nouvelles et poèmes. Sandrine Goldschmidt, qui est organisatrice du festival Femmes en Résistance, passionnée de cinéma et de toile en toile, animatrice d'un blog, à dire d'elle pour un regard sur l'actualité politique et notamment la question de l'égalité entre hommes et femmes. Didier Gourvenec-Ogor, qui a été, je crois, il y a quelque temps, collaborateur d'Éric Mangion au FRAC PACA, puis de Roger Pellas et d'Yvon Lambert dans leurs galeries respectives et aujourd'hui directeur de la galerie Gourvenec-Ogor. Patricia Ganel, qui est chorégraphe et danseuse, qu'on a vu souvent à Marseille aux côtés de Cathy Deville, par exemple, et du Théâtre des Cuisines, ou bien aux côtés de Patrick Servius, en tout cas aujourd'hui au sein de la compagnie Le Rêve de la Soie, dont elle est la cofondatrice. Parallèlement, Patricia Ganel mène de nombreux ateliers, je crois, de sensibilisation à la pratique de la danse contemporaine. Nathalie Heinick, qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS, au sein du Centre de recherche des arts et du langage. Et c'est avec pragmatisme qu'elle aborde comme terrain de recherche les arts plastiques, le cinéma et la littérature, peut-être pour en exciper ou en décrire un modèle anthropologique de l'identité féminine dans l'imaginaire occidental. On aura sans doute l'occasion d'y revenir au cours de ce débat. Sonia Josifort, qui a aussi, je crois, un background de sociologie de la culture et qui est en tout cas aujourd'hui consultante en projets culturels liés au cinéma, et aussi administratif de Hommes-Femmes Île-de-France. C'est une association qui défend la parité dans les domaines de l'art et de la culture. Jean-François Pascal, philosophe et stratège, qui fut tour à tour conseiller ministériel, directeur de la communication et assistant parlementaire, aujourd'hui en tout cas directeur de la Galerie Paradis et cofondateur de La Ruche. La Ruche, c'est un lieu de rencontre interdisciplinaire dédié à la création contemporaine. Et enfin, Lydie Marquis, qui après avoir œuvré au sein de la Fondation MAG ou du service culture du CG13, est aujourd'hui directrice de Saphir, galerie nomade, et elle aussi cofondatrice de La Ruche que je vous citais il y a un instant. Et puis Françoise Semiramoth, qui est à mes côtés, qui est artiste plasticienne, qui se revendique engagée. Elle est cofondatrice de l'association La Collective, initiatrice de ce projet contemporaine. Point de départ de cette discussion, l'expérience sensible qui nous a été proposée cette semaine avec la programmation de contemporaine, des artistes et des œuvres très différentes, revendiquées comme différentes d'ailleurs par les commissaires de cette exposition, sur la grande diversité de ces œuvres et la grande diversité des productions que vous avez choisi de refléter dans cette programmation. Françoise Semiramoth, pour commencer.
Eh bien, il nous a semblé, donc, lorsque nous avons monté ce projet avec Lydie Marquis, de mettre en avant effectivement une certaine diversité quant à la proposition de la création de contemporaine et au féminin. Et effectivement, ça a été une espèce de voyage artistique avec des sensibilités différentes. Donc le premier jour, nous avons eu l'univers de Mélanie Thierrier, où il est plus question, on va dire, d'une féminité complètement affirmée, avec une certaine douceur. Le mardi, nous avons eu Claire Danzer qui présentait un fou rire d'11 minutes qui pouvait être parfois agressif, parfois qui provoquait effectivement le rire. Le mercredi, une proposition d'Emmanuel Sarouinogues, où il est question d'un repas dominical entre les deux tours des élections en 2007. Le jeudi, nous avons une autre proposition où Gasque Démolition a voulu justement montrer une sorte de topographie archéologique, contemporaine sur la démolition, les bâtiments, etc. Le vendredi, eh bien, c'était mon tour où j'ai présenté deux vidéos, une qui s'appelle Grotesque et une autre qui s'appelle There Was a Girl, où il est question d'altérité, c'est-à-dire le regard de l'autre et celui que je peux porter sur les autres comme celui que les autres peuvent porter sur moi. Et nous avons également, avec mon acolyte Françoise Donadieu, qui est écrivaine, avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années maintenant, présenté un de ses textes lors d'une lecture. Et pour finir, donc aujourd'hui, nous avons la présentation de Raviera, tu m'aides pour le nom ?
Raviera Tererinaresso, avec un triptyque, voilà. Donc blanc-bleu, rouge-blanc et noir-bleu, qui a été réalisé pour Contemporaine, qui est sa dernière vidéo.
Ces productions, elles sont foisonnantes, elles sont multiformes. Sur ce foisonnement, justement, peut-être on peut proposer aux galeristes qui sont parmi nous, ils sont là juste à côté, un regard justement sur cette diversité, ce que vous avez perçu à travers cette programmation de contemporaine et comment ça reflète une grande diversité d'approches.
Oui, écoutez, sur cette question de la diversité...
Jean-François Pascal.
Après, c'était une des questions qu'on avait agitées un petit peu entre nous, savoir si on pouvait ramener cette diversité à une définition du féminin. Est-ce qu'il y a des œuvres au féminin ? Est-ce qu'on doit trouver un singulier, quelque chose qui permet de les réunir ? Ou est-ce qu'on est simplement voilà, dans une variété de propositions ? Pour moi, ça, c'est une question très difficile à trancher, puisque en tant que galeriste, ce sont d'abord des individus que je reçois dans la galerie, des artistes. Donc, ils ne sont pas jugés, effectivement, en fonction du genre. Après, l'idée que ce serait complètement interchangeable, qu'il n'y aurait rien d'autre à en dire que simplement, justement... voilà, un homme, une femme, sans qu'on puisse faire aucune distinction, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'épuise pas complètement la question. Il y a quelque chose qui résiste. Voilà, quelque chose qui résiste et en même temps qu'il serait sans doute risqué de définir et d'enfermer.
Didier Gourvenec, Ogor.
La question du genre, finalement, ne se pose pas forcément. La question de la création contemporaine par les femmes, finalement... C'est la question de la création contemporaine en général et pas simplement celle des femmes.
Sandrine Goldschmidt.
Moi, je voudrais enchaîner là-dessus pour dire que si effectivement la question, heureusement, on ne peut pas forcément identifier le sexe d'une personne, d'une auteure, d'une artiste par son œuvre, en revanche, la question du genre prend tout son sens dans le domaine de la création contemporaine. Moi, j'en parle plus particulièrement à partir du cinéma que je connais, mais je sais, et du féminisme que je connais bien aussi, que ça peut s'étendre à beaucoup d'autres secteurs de la création. La question du genre, elle se pose d'abord, dans un premier point et avant tout, sur la question de l'accès à la création, de l'accès et de la possibilité, donc, dans notre monde très économique, d'avoir les moyens de créer et d'avoir les moyens d'être vu, d'être montré. Et je pense que, moi je viens de Paris où il se passe pas mal de choses, mais si j'ai bien compris, c'est aussi un peu une première, ce qui se passe aujourd'hui à Marseille, de montrer une exposition contemporaine avec des artistes femmes. Et je pense que c'est très très important, parce que c'est encore beaucoup trop rare.
Alors je crois qu'il y avait en revanche eu à Paris, il y a quelques années déjà, c'était en 2009 si mon souvenir est bon, une exposition qui s'appelait Elle, qui était au centre Pompidou et qui se voulait une rétrospective de la pratique artistique par des femmes au cours du XXe siècle. Peut-être que tu as vu justement à Paris.
Enfin, non, c'était un peu une grande première surtout d'avoir au centre Beaubourg, qui a été souvent très critiqué pour ne pas présenter beaucoup d'œuvres de femmes. Et aujourd'hui, on peut quand même plus dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'artistes femmes. C'était un petit peu une forme de rattrapage, on pourrait dire.
De Lydie Marquis.
C'était totalement un rattrapage, en fait, puisqu'en fait, la commissaire d'exposition, Christine Massel, avait été épinglée 2 ans plus tôt parce qu'elle ne présentait jamais de femmes. Elle a pris conscience de cela à ce moment-là et elle s'est dit qu'il fallait faire un truc. Mais quand on sortait de cette exposition, c'était assez frustrant, parce que en sortant, je me disais, et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?
Françoise Donadieu.
Je voudrais citer les paroles d'une femme que l'on commence à connaître bien en France, qui s'appelle Angelica Lidl, qui est une performeuse à l'origine, et puis qui maintenant est un auteur de théâtre très connu. Quand je parle de la conscience d'être femme, je veux parler de la conscience d'être socialement une femme. Il faudrait vivre en dehors du monde ou être stupide pour ne pas se rendre compte de la position occupée par les femmes dans notre société, qui est une société parfaitement misogyne où règne un paternalisme infect, même si parfois c'est à peine perceptible. Alors, vous comprenez pourquoi je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais enfin, c'est ce qu'elle dit. Par ailleurs, elle dit bien des choses ne sont pas communes aux femmes par le seul fait qu'elles sont des femmes. Je n'arrive pas à penser de façon collective. Il m'est arrivé qu'on me propose de figurer dans une publication de théâtre écrite par des femmes. J'ai refusé. Car ce genre d'initiative conduit juste à effacer les traces d'individualité. Dans le fond, cela revient à diluer tous les marginaux dans un même sac de marginalité, les noirs, les jeunes, les femmes, et j'en passe. Voilà.
Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, ou sur cette question de la difficulté de l'accès à la création qui était évoqué. Nathalie Heinick.
Petite remarque de sociologue. Raymonde Moulin, qui était une pionnière de la sociologie de l'art, a montré dans une enquête publiée sous le titre, je crois, Les artistes, essai de morphologie sociale, c'était au début des années 80, que le problème pour les femmes n'était pas du tout l'accès à la création, parce qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes qui entrent dans les métiers de la création. C'est l'accès à la reconnaissance. Et un deuxième point, justement, pour cette question de la reconnaissance, c'est vrai qu'une des solutions qu'on essaye de trouver quelquefois lorsqu'on prend conscience de cette inégalité, c'est d'offrir aux femmes artistes une visibilité exceptionnelle, notamment en les montrant ensemble, comme dans cette exposition de Beaubourg. C'est, évidemment, ça a un risque qui est de ne les reconnaître que en tant que femme et non pas en tant que créatrice. Et c'est vraiment le risque de la ghettoisation, et qui renvoie plus généralement à un grand problème qui traverse toute l'histoire du féminisme, qui est la question de savoir s'il faut construire la revendication féministe sur la différence, la reconnaissance de la différence et notamment de la spécificité du féminin, ou au contraire sur l'universalité, c'est-à-dire la mise entre parenthèses des différences des sexes dans l'espace public. Voilà, c'est un grand problème qui n'est toujours pas résolu et qui continue à cliver très profondément le mouvement féministe et qu'on retrouve bien sûr dans les problématiques sur les femmes artistes.
Françoise Semiramoth.
Moi, ce qui m'embête toujours un petit peu, c'est cette notion d'universalité, l'universalisme, etc. Avant d'en arriver là, je crois que les mentalités ne sont pas encore prêtes pour parler d'universalité, d'universalisme, en tout cas pour le propos qui est abordé aujourd'hui. Il est important, dans un premier temps, de faire un focus, de voir la différence, d'accepter cette différence, et ensuite, une fois que les mentalités auront évolué, seront à même d'accepter cette différence, une fois nous pourrons parler d'universalité dans le monde de l'art contemporain ou de la création contemporaine. Je crois que c'est très très important. La différence, mettons le point dessus, faisons-la accepter par les autres, parce qu'elle est, parce qu'elle peut apporter, parce qu'elle apporte tout simplement. Le fait d'être une femme artiste, qu'elle soit plasticienne, danseuse, actrice, ce que vous voulez, il faut reconnaître effectivement qu'il y a une force dans cette création, qu'il y a une diversité dans cette création, qu'il y a un propos féminin.
On peut quand même répondre quelque chose, c'est que cette proposition serait valable à condition qu'on accepte de considérer que les œuvres des hommes sont un propos masculin. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Les hommes sont spontanément considérés dans l'universalité, et je ne suis pas certaine que militer pour l'égalité en passant par l'insistance sur la différence soit une bonne façon de faire en sorte que les femmes aient elles aussi le droit d'exister en tant qu'être humain ou en tant que citoyen, et pas seulement en tant qu'elles incarneraient une féminité. Enfin, moi je suis résolument sur une position universaliste, et je pense que beaucoup de femmes créatrices ou de femmes auteurs dont je suis seraient extrêmement blessées et humiliées qu'on ne considère la qualité de leur travail qu'en tant qu'ils représenteraient leur assignation à un sexe particulier.
Jean-François Pascal.
Sur ce point, on peut être d'accord effectivement, mais je crois qu'il y a quand même un problème justement en France avec cette question de la différence. C'est-à-dire dès qu'on sent qu'il y aurait une prise de risque à nommer le particulier ou le différent. Et toute la question effectivement, c'est savoir est-ce qu'on s'en tient à un discours universaliste qui est le discours de la République. Moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le creux de ce discours, j'ai vu proliférer dans différents milieux, effectivement, tout un ensemble de discriminations réelles pratiquées au quotidien. Alors on oppose à ça, effectivement, la reconnaissance de la différence, et on dit « Ah oui, mais si vous nommez le différent, on va rentrer dans une logique de quota qui va effectivement assigner l'individu à du particulier ». On a à penser une position qui soit au-delà justement de ces deux écueils. On a à être très très fin, je dirais, à la fois dans la pensée et dans l'action. Parce qu'autrement, il y a une espèce de dialogue de sourds, et au total, il y a de l'immobilisme et du conservatisme. On parle, rien ne change.
Sandrine Goldschmidt.
Effectivement, c'est très intéressant pour parler de ce qui est le centre de la question, qui est effectivement pas forcément l'accès, mais la visibilité et la reconnaissance. Le cinéma est né à la fin du 19e, début 20e. Et les femmes s'en sont tout de suite emparées. Assez peu de monde sait que la première personne qui a réalisé une fiction était une femme. Elle s'appelle Alice Guy. Et que, comme par hasard, on ne s'en est pas souvenu. Et ensuite, on a eu Hollywood. Et Hollywood qui a été une sorte de machine à stéréotypes et de machine à catégorisation. Et juste pour enchaîner peut-être sur une suite de discussions tout à l'heure, l'apparition de la vidéo, dont sont emparées notamment les cinéastes féministes, a permis de porter la réflexion pas seulement sur la question de l'accès ou de la reconnaissance, mais aussi sur la forme et le fond, c'est-à-dire est-ce que, et à mon avis c'est une question très importante aussi ici, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on arrive à représenter les femmes dans la vidéo d'une façon qui soit universelle et non pas androcentrée.
Françoise Donadieu.
Il ne me semble pas que les choses ont beaucoup changé depuis que Virginia Woolf parlait des valeurs et disait que, évidemment, l'échelle courante des valeurs, c'était tout de même l'échelle des valeurs masculines.
Nathalie Heinick.
Moi, je ne suis pas certaine que les choses soient restées aussi stables que vous le dites. Je pense qu'elles ont énormément changé et que les progrès en deux générations de la présence des femmes dans toutes sortes de domaines, et notamment dans la création, sont des progrès spectaculaires. Simplement, ce qui a changé, c'est que le sexisme nous est devenu beaucoup plus intolérable, donc beaucoup plus visible, et que du même coup, rétrospectivement, nous réinterprétons les choses comme étant, le monde comme étant extrêmement sexiste, alors même qu'il l'est de moins en moins. Moi, je pense que la résolution du casse-tête, là, dont on parlait, elle passerait évidemment par le fait de s'intéresser aux œuvres beaucoup plus qu'aux personnes. Or, le problème dans les arts plastiques, et beaucoup dans les arts plastiques, aussi dans la littérature et le cinéma, mais surtout dans les arts visuels, c'est que aujourd'hui, il est très très difficile d'exister comme artiste sans que ce soit à travers sa personne et non pas son œuvre.
Alors, je vous propose qu'on ait un premier moment d'échange avec le public qui nous a fait l'amitié de venir nous rejoindre.
Donc voilà, je suis personne. D'accord, au sens reconnu artistiquement, ça n'empêche pas que depuis des années, j'écris. En vous écoutant, en fait, ça me fait beaucoup réagir, parce qu'en fait, à mon sens, on mélange plusieurs niveaux. Il y a la création, en tant qu'acte de création, et puis donc l'œuvre aussi qui en sort, et ensuite, il y a le regard qu'on pose sur l'œuvre. Déjà, ce sont vraiment trois choses différentes. À mon sens, s'il y a universalisme, il est dans l'acte de création. C'est-à-dire que créer... il me semble que peu importe qu'on soit homme ou femme, il y a là-dedans un mouvement, une énergie, des interrogations, des pulsions, une imagination, un imaginaire, etc., qui sont, à mon sens, humains. Point barre. Par contre, le fait que je sois une femme, en tant que femme, j'ai un vécu, et il est évident que quelque chose en transparaît à un moment ou à un autre, de manière plus ou moins claire ou évidente, dans ce que je produis. Tout simplement parce que transparaît aussi toutes les autres types d'interactions que je peux avoir avec le monde. Mais il se trouve qu'en partie, il y a une interaction en tant que femme, dans un monde qui est social. C'est-à-dire que ça interroge pas mon identité intrinsèque de femme, ça interroge mon vécu social de femme. Après, il y a le regard. Et puis après, il y a la manière dont on joue des codes et des genres, il y a la conscience qu'on a soi-même des genres. Quelles sont les références et les représentations qu'on a et qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que créateur et entretenir de qu'est-ce qui est féminin et masculin. Et on retourne dans le classique débat de qu'est-ce qui fait le genre.
Didier ?
Oui, je voudrais juste revenir aussi sur la différence. Et il y a aussi le droit à l'indifférence et que des femmes artistes aussi revendiquent. En ce sens, il n'y a pas forcément obligation de différence parce qu'on est une femme.
Sonia Josifor.
Oui, je voulais moi intervenir plutôt en tant que du coup militante, donc je vais avoir un regard extrêmement pragmatique sur la question du genre et de la création, puisque je suis dans un collectif qui s'appelle Collectif HF Hommes-Femmes pour la parité dans le secteur des arts et de la culture. Donc c'est un collectif qui s'est créé en Île-de-France suite à un rapport, peut-être vous en avez entendu parler, qui est un rapport commandé par le ministère de la Culture lui-même d'ailleurs, sur la question de l'égal accès des hommes et des femmes aux postes de responsabilité, des lieux de décision et de la maîtrise de la représentation dans le secteur du spectacle vivant. C'est un rapport donc qui est sorti en 2006 et qui est suivi d'un second en mai 2009 qui s'appelle « De l'interdit à l'empêchement ». Et ce rapport montre et démontre très clairement une disparité très forte et inquiétante, même dans notre modèle de démocratie, des représentations des hommes et des femmes dans le secteur de la culture. À savoir, pour vous donner des chiffres un peu très concrets, c'est que 84% des théâtres cofinancés par l'État sont dirigés par des hommes, 89% des institutions musicales sont dirigées par des hommes, 97% des musiques que nous entendons dans nos institutions et sur les chaînes de radio ou de télévision sont composées par des hommes, 94% des orchestres sont dirigés par des hommes, 85% des textes que nous entendons dans les théâtres sont des textes d'hommes. On est dans une réalité où il y a véritablement une disparité qui est franchement inquiétante pour notre modèle démocratie. On est 8 collectifs en France à se mobiliser sur ces questions-là. Donc nous, notre travail, c'est un travail de fond, de lobbying auprès des politiques pour leur dire que c'est une situation qui n'est pas acceptable en France. Je dirais que cette partie plus politique, nous nous engageons auprès d'autres structures féminines, mais qui sont composées d'hommes et de femmes, puisque dans notre collectif, il y a autant d'hommes que de femmes, et on s'en réjouit. Et avec la région Rhône-Alpes et la région Île-de-France, on a commencé à monter des saisons, ce qu'on appelle des saisons égalitaires. Cette saison égalité hommes-femmes, elle permet aux acteurs culturels de s'engager à mettre en pratique les principes d'égalité dans le secteur des arts et de la culture.
Nathalie Hennig, vous vouliez répondre à Sonia Josifor ?
Oui. Je comprends tout à fait votre préoccupation et je la partage. Mais je voudrais quand même juste relativiser un peu les choses. Ce que vous dites n'est pas du tout spécifique du monde de la création. Ça existe dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Bon. Deuxièmement, quand on dit qu'il y a 84% de théâtre, par exemple, dirigé par des hommes, ça veut dire qu'il y a 16% de théâtre dirigé par des femmes. Il y a une ou deux générations, il y aurait eu 0%. Donc, je pense quand même qu'il ne faut pas oublier qu'on est plutôt dans une spirale vertueuse, c'est-à-dire que les choses vont de mieux en mieux de ce point de vue-là, en partie grâce aux actions que des gens comme vous mènent, et c'est très bien, mais je ne pense pas qu'il faille s'en tenir à un discours purement dénonciatoire et alarmiste. On peut aussi dire c'est formidable, les choses ont quand même bien changé depuis quelques générations.
Patricia, peut-être Patricia Aguanel sur ces questions et une expérience d'artiste sur ce milieu culturel, est-il lui aussi soumis à ce fameux plafond de verre ?
Alors moi je veux juste dire deux choses, en danse c'est différent, c'est-à-dire que c'est le rapport de Reine Pratt justement dont elle parlait. Il s'avère qu'en danse il y avait beaucoup plus de femmes dans les centres de nationaux, il n'y en a plus que 6 sur 19 centres. Donc les femmes s'en vont au fur et à mesure des têtes, dans les théâtres elles sont souvent assistantes, non pas directrice de théâtre. Donc, et on trouve effectivement un recul de leur position de pouvoir, on va dire. Autrement, en tant qu'artiste, je crois que quand je commence à travailler, ou bien quand je vais travailler avec quelqu'un, c'est évident que j'ai la possibilité de choisir avec qui je veux travailler, mais je ne me pose pas la question de savoir si c'est un homme ou une femme. Je choisis le propos, je choisis le rapport au corps, comment il est mis en scène, et quels sont les rapports humains qui sont mis en place dans la création. De par le fait que mon corps est un travail de... Enfin, c'est mon outil, donc on le voit, c'est un homme, c'est une femme, c'est visible, je ne peux pas dire qui fait... je ne peux pas me cacher derrière. Ce qui me fait travailler, ce qui me fait aller dans une pièce de création, c'est la rencontre avec la personne...
Je crois, Sandrine, tu voulais réagir peut-être.
Je voulais réagir dans un autre peu à registre. Ce qu'a dit Nathalie Hennick sur la question du fait que ça progresse, qu'il y aurait déjà 16%. Alors déjà pour reprendre le chiffre sur les réalisatrices, si on dit qu'il y en a beaucoup plus, on est quand même toujours à 11 ou 12%, ce qui est déjà en France exceptionnel, alors que dans la plupart des autres pays, c'est plutôt 5-6%. Donc c'est de l'ordre du ridicule. Et on a effectivement une tendance à pas vouloir trop bousculer les choses quand il s'agit de l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Moi, j'aurais tendance à dire ça fait quand même 20, 30 ans, 40 ans qu'on en parle. Donc je pense que effectivement un semblant d'égalité, on pourra y arriver d'ici quelques millénaires si on continue sur ce rythme-là. Mais tout ça ne suffit pas. Donc je pense que c'est une politique globale, complète, et en rappelant en permanence les choses de façon extrêmement claire, qu'on peut envisager que peut-être les choses évoluent.
Une inégalité, en tout cas, qui perdure effectivement. Nombre de postes de direction sont encore aujourd'hui occupés par des hommes. Alors même, et c'est vraiment une contradiction, on s'en était fait la remarque en préparant cette émission, alors même que les cursus, les écoles d'art accueillent vraiment une proportion de futurs artistes femmes très importante. Donc il y a une vraie contradiction dans le système qui accueille beaucoup de femmes à ces pratiques artistiques contemporaines, mais qui ne leur donne pas des responsabilités. Didier ?
Non, juste une note d'espoir, c'est que dans les arts plastiques, c'est plutôt l'inverse. Donc dans les arts plastiques, il y a une majorité de femmes au poste de pouvoir. Il y en a une très grande minorité dans la création, dans les artistes. Là-dessus, c'est clair. Moi, en préparant cette table ronde, j'ai regardé un petit peu les galeries un peu importantes ou même les galeries marseillaises. Moi, j'ai 0 artiste femme sur 8 artistes. J'ai ouvert il y a 6 mois. Mais j'ai regardé aussi sur des galeristes femmes. Globalement, on est à 20% de représentation de femmes dans les galeries, mais dans les centres d'art, dans les musées, les FRAC et autres, c'est une majorité de femmes. Donc c'est au moins une note d'espoir.
Françoise Donadieu.
Ce que vous dites à propos des galeristes, ça veut dire qu'il y a des femmes dans la création qui sont arrivées au pouvoir, mais qui n'arrivent pas à la création. Comme j'ai été enseignante longtemps, j'ai eu une espèce d'hypothèse à propos du fait qu'il y a beaucoup de filles dans les écoles d'art, puis après plus parmi les grandes artistes. C'est-à-dire qu'on encourage les filles à faire des arts plastique au lycée, de la même façon qu'on les encourage à faire de la littérature, dans une espèce de justement d'essentialisme féminin qui serait qu'elles sont plus sensibles que les hommes et que par conséquent sont plus aptes à ce genre de discipline. Sauf qu'après, quand on passe aux choses sérieuses, qui est vraiment la création et se considérer créateur, c'est peut-être beaucoup plus difficile toujours pour une femme, parce que je ne pense pas que les grandes représentations symboliques aient tellement changé. Sans doute il y a des progrès qui ont été faits grâce aux luttes, mais dans les représentations symboliques, est-ce que les fonctions symboliques ont tellement changé? C'est là qu'il faut vraiment penser la notion de genre, comme certaines féministes américaines qui doivent paraître extrêmement redoutables et agressives la pensent, c'est-à-dire remettons en question le genre tel qu'il est constitué.
Alors peut-être sur cette question-là, on va proposer quelques rebonds. Peut-être Sandrine d'abord, et je crois qu'il y a une question dans le public juste après.
Oui, enfin je ne sais pas si c'est la question du genre ou simplement des rôles sur la question du fait que les femmes n'ont pas forcément envie d'accéder au pouvoir. Il faut vraiment se rendre compte, comprendre que cela fait partie de ces rôles assignés que de ne pas avoir envie d'accéder à des postes de pouvoir. C'est d'abord pas forcément qu'on n'a pas envie d'accéder à des postes, mais c'est qu'on ne s'y autorise pas du fait de notre éducation.
Monsieur, oui, dans le public, voulait intervenir.
Donc, je voulais réagir aux propos sur ces jeunes filles qui font des études en école d'art. Je suis enseignant en école d'art et je peux vous dire qu'elles, pour beaucoup, elles luttent aussi pour pouvoir convaincre leur famille de pouvoir entrer dans une école d'art. Ce sont ces jeunes filles qui prennent souvent le plus de risques jusqu'au moment où elles passent leur diplôme. Et là, on est des êtres construits et on se retrouve fatalement assujettis à des rôles sociaux. Donc, on se retrouve avec une forme d'aliénation à ce rôle et à ces rôles. Donc, les quelques femmes qui ont envie de poursuivre, effectivement, se retrouvent face à des conditions de compétition pour pouvoir avoir une reconnaissance. Effectivement, elles se retrouvent face à des systèmes de pouvoir. Ce qu'il s'agit de réattaquer, c'est effectivement comment se constituent ces pouvoirs. Donc inventons des rôles, inventons des formes.
Peut-être pour répondre sur cette question de la construction des pouvoirs, Nathalie Hennick.
Oui, je pense que c'est aussi pour répondre à ce que disait Sandrine. Moi, je pense qu'il faut pluraliser un peu les choses et arrêter de dire les femmes, parce qu'il y a des femmes très différentes et toutes les femmes n'ont pas les mêmes aspirations. Et il faut arrêter de dire le pouvoir, parce qu'il y a toutes sortes de formes de pouvoir. Donc, on peut avoir du plaisir à avoir du pouvoir sur autrui dans un univers professionnel. C'est ce qu'on appelle le pouvoir au sens traditionnel, par exemple, diriger un établissement. On peut avoir du plaisir à avoir du pouvoir sur ses proches, et c'est ce que beaucoup de femmes ont toujours eu de tout temps dans la famille. C'est un pouvoir extrêmement important, même s'il n'est pas reconnu socialement comme le pouvoir professionnel. Et puis on peut avoir aussi envie d'avoir du pouvoir sur sa propre création. C'est une position d'auteur ou d'artiste qui est tout aussi légitime. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait à tout prix exiger le pouvoir au sens restreint du pouvoir professionnel, alors qu'il y a des tas de façons d'exercer du pouvoir, et il y a des tas de façons d'être une femme aussi.
Sonia Josifort.
Oui, cette question du pouvoir, je vous entendais tout à l'heure, moi ça me pose vraiment question, parce que je pense qu'effectivement on laisse pas la possibilité aux femmes à un moment donné d'oser faire quelque chose qui serait de l'ordre. J'entreprends par exemple de diriger un centre chorégraphique, ou j'entreprends d'avoir une scène nationale et de travailler avec des artistes qui m'intéressent, et qu'il y a cette espèce de forme d'auto-censure qu'on ressent beaucoup, même dans les débats les femmes en général prennent moins la parole. Il y a cette forme d'autocensure. Le pouvoir, pour moi, c'est presque péjoratif, alors qu'il pourrait avoir un sens beaucoup plus noble, qui serait de être quelqu'un qui a une véritable point de vue sur l'art et qui oserait et qui serait plus offensif en faisant des propositions artistiques, esthétiques avec des collectifs et qui pourrait partager ça. Voilà, cette espèce de censure que les femmes ont fait que la tâche est d'autant plus difficile. Même s'il y a eu, comme vous disiez Nathalie, beaucoup d'évolution et moi je dirais une vraie révolution des femmes, comme le disait Geneviève Fraisse, moi je pense que cette révolution elle est inachevée.
L'évolution, comme la révolution, ça doit être permanent. Je crois qu'il y a une question dans le public. Madame, bonjour.
Je vais intervenir sur deux points. Le premier, par rapport au pouvoir et à toute la culpabilité que j'entends sur les femmes qui prendraient le pouvoir. J'aimerais recentrer ça sur la responsabilité. C'est l'accès au poste de responsabilité.
Parlez bien fort, s'il vous plaît.
Oui. C'est l'accès au poste de responsabilité, c'est-à-dire dans des postes décisionnels. Et là où les femmes sont discriminées, c'est parce qu'on suppose qu'elles seraient moins disponibles, qu'on suppose qu'elles pourraient avoir un enfant, qu'elles supposent qu'elles seraient moins mobiles. Ce sont des supputations qui font qu'on les met moins dans des postes de responsabilité, qu'on leur propose moins ces postes de responsabilité. Il n'y a pas que le fait de s'auto-censurer. Je voulais intervenir sur ce point-là. Un deuxième point, on a beaucoup parlé de féminité dans le sens très essentiel du terme. Pour moi, le féminin est au pluriel. Les femmes sont au pluriel. Et je n'ai pas encore entendu la question LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle et trans, qui relativise énormément ce que signifie le masculin et le féminin, et qui relativise énormément ce que c'est qu'être une femme et pourquoi pas une femme artiste.
Alors une autre intervention, monsieur.
Non, juste une chose, moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on est en train de faire un parallèle entre un phénomène sociétaire qui date de dizaines d'années, entre la relation féminine, masculine, la place de la femme dans la société, et la création artistique qui est complètement différenciable du problème homme-femme. J'ai trouvé vraiment génial votre intervention de dire quand je regarde une œuvre, je me pose pas la question de savoir si elle est black, blanc, beurre, homme, femme. C'est ça qu'on aime dans l'art.
Françoise Donadieu.
Simplement pour revenir à ce fait que ce que vous dites, toutes les femmes en sont d'accord, hein, au contraire, puisque c'est ce à quoi elles veulent accéder. Cette femme qui va créer une œuvre d'art, elle est prise en tant que femme dans un système social dont elle ne peut pas faire abstraction.
Ça va. Françoise Semiramot.
C'est pour répondre au jeune homme qui est en face de moi. Lorsque l'art s'est imposé à moi, dès mon plus jeune âge, au début, je prenais ça comme un passe-temps dans mon enfance. Mon père étant peintre, donc j'ai baigné dans cet univers. Et puis après, avec l'adolescence, je me suis intéressée de plus en plus à l'art, sans me soucier de qui j'étais véritablement, ni homme ni femme. Je ne me posais pas la question. D'ailleurs, on disait que j'étais un garçon manqué. Et puis avec le temps, quand effectivement l'art est véritablement rentré dans ma vie, une des premières questions que je me suis posée, comment je vais pouvoir faire pour être artiste comme mon père et être mère un jour. Il s'avère aujourd'hui que je suis artiste comme mon père et je ne suis pas mère. Mais je garde en moi cette notion de sacrifice parce que je savais qu'au fond de moi, s'il avait fallu que je sois mère un jour, il aurait fallu que je mette de côté ma carrière artistique pendant un certain temps afin de me consacrer à mes enfants. Et souvent, l'artiste femme se pose cette notion de sacrifice, malheureusement. Et je pense que Lydie va nous parler d'une expérience très récente par rapport à ça. Pas Lydie directement,
je pense que
mais
c'est
une de nos artistes qui est mère récemment.
Truc. Après, je rends le micro. Je pense que c'est valable dans tous les domaines. Et mesdames, vous avez toute votre place dans la création artistique. Et
Merci.
Non,
Ils n'ont pas attendu d'en avoir l'autorisation, hein, de toute façon.
Là, je suis tout à fait d'accord avec donc le jeune homme, puisqu'on l'appelle comme ça, a priori, dans le public. Toutes les femmes, à un moment donné, sacrifient quelque chose à leurs enfants, mais aussi les hommes. Hein, aujourd'hui, il y a les nouveaux papas, et ils savent bien le faire également. Il ne faut pas non plus les oublier. Au niveau de la création et d'être mère, moi, souvent, ce que j'ai remarqué en étant confrontée à des artistes femmes, et c'est pas vraiment le cas pour les hommes, par contre, c'est que j'avais la sensation que les femmes, quand elles devenaient mères, perdaient un petit peu de leur énergie. Et puis après, ça revenait, mais c'est très difficile, comme dans toute carrière, de revenir quand on a pris une pause, ne serait-ce que d'un ou deux ans. Mais c'est pas seulement lié à la création contemporaine, c'est dans tout boulot aujourd'hui.
Jean-François Pascal, et juste après Sandrine.
Oui, un petit mot avec retard, parce que c'est pour reprendre le débat. Je pense qu'il faut vraiment faire très très attention aux universalismes poétiques que peut générer justement l'art avec une espèce de référence comme ça à l'élan créateur qui passerait au-delà de toute différence. Et puis d'ailleurs, pour ouvrir un petit peu le débat, moi je me souviens quand même de ma dernière visite à la FIAC, il y a quand même un moment, et là on va sortir de la question féminine, où on se demande, mais on est juste tous blancs. Il y a quand même un truc énorme, il y a des dénis comme ça qui sont tellement importants qu'on en parle plus, c'est-à-dire indépendamment de dénombrer les hommes et les femmes, moi ce qui me frappe quand même dans tout ce petit milieu de l'art contemporain que je connais finalement depuis si peu de temps, c'est quand même par exemple voilà, la manière dont c'est un monde intégralement blanc, et que personne ne s'intéresse ou ne s'interroge de manière massive sur ça, moi me fait penser, puisque j'ai aussi été enseignant effectivement, à des dénis qui étaient majeurs dans l'enseignement, dans lesquels justement au nom de l'égalité on pensait que, moi j'ai enseigné en lycée professionnel dans les terminales technologiques, elle est où l'égalité ? Et véritablement cette question de la couleur, c'est très simple, mais c'est quand même majeur.
Non, mais alors peut-être Sandrine d'abord. Et...
Je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre encore plus que ça fait, ça fait 10 minutes nous avons deux personnes qui ont posé des questions et que pour l'instant personne n'a répondu à madame et qui parle justement d'une autre invisibilité flagrante qui est celle de l'homosexualité. Et comme on est sur un débat sur la place des femmes dans la création contemporaine, je dirais encore plus particulièrement de la place des lesbiennes. Et c'est pour ça que pour vous répondre, je dirais que si nous on se posait la question en termes de la place des femmes, c'est par rapport à cette catégorisation de l'éducation, cette assignation à un sexe, et je pense que la question elle se pose avec beaucoup d'acuité aussi pour à la fois pour les femmes et pour les femmes lesbiennes. C'est probablement on appelle ça l'intersectionnalité, probablement un énorme problème, une grosse difficulté supplémentaire. Il y a eu une exposition elle à de Belleville aussi l'année dernière à Paris qui en a parlé et qui l'a mis en avant. Et je pense que par rapport à ce qui nous occupe ce soir, c'est plus qu'une question qui serait LGBT, une question d'être femme et lesbienne. Voilà.
Alors Nathalie Hennig, ouais. Et juste après Didier Gourvenec.
Alors là encore, j'ai une petite réponse un peu en désaccord avec vous, parce que tout le monde n'a pas envie d'être défini ni par son sexe, ni par sa sexualité. La sexualité, ça relève du domaine privé, normalement. Et... libre à ceux qui veulent construire leur identité sur leur sexualité de le faire, mais libre aussi à ceux qui ne le veulent pas de ne pas le faire. Et on ne peut obliger personne à considérer quelqu'un en fonction de ses pratiques sexuelles. Voilà.
Didier Gourvenec.
Moi, j'ai utilisé tout à l'heure l'expression « le droit à l'indifférence », c'est une citation de LGBT. C'est le droit à l'indifférence, justement. Et clairement... L'idée, c'est pas de faire de l'outing, mais il y a plein de femmes lesbiennes dans la création. Justement, elles sont peut-être même majoritaires par rapport à la présence des femmes dans la création, en tous les cas dans les arts plastiques. Il y en a beaucoup.
Et on s'en fout, et heureusement.
Et on s'en fout, et heureusement, parce que c'est pas effectivement leur sexualité qui fait leur talent ou leur particularisme artistique ou de création.
Il nous reste à peine quelques minutes encore pour cette discussion. Je vous propose que peut-être on fasse circuler le micro dans le public.
Tout à l'heure, vous aviez parlé de l'idée du modèle et du sens. Et en fait, ça a été squeezé. Et j'aimerais savoir ce que vous entendiez par là, par rapport à une pratique artistique, mais peut-être aussi par rapport à un modèle politique ou sociétal.
La question du modèle, la question du sens, et y compris du modèle politique, qui veut répondre.
On n'a pas prévu de duvet pour la nuit, donc je ne suis pas sûre qu'il faille s'engager dans cette très très importante question. Mais bon.
Nathalie, si, quand même. Non, vraiment pas. Bon, j'aurais insisté, hein, j'aurais tout fait. Vous en êtes témoin.
Simplement, juste parce que...
Françoise Donadieu.
Puisque Julie a posé la question, je crois qu'on lui doit un petit élément de réponse. En fait, c'est pendant cette discussion que nous avons eue pour mettre en place les thèmes que ce mot est arrivé, peut-être un petit peu de façon parasitaire dans la discussion sur le problème des modèles.
Modèles et des représentations.
Et des représentations, c'est ça. Mais je pense que c'était par rapport à l'histoire de l'art. C'est-à-dire, on était parti de là. Est-ce que ce sont des modèles féminins qui amènent les femmes à créer? Est-ce qu'on crée à partir d'un modèle? Est-ce qu'on a besoin, justement, puisque... on dit que on fait des tableaux parce qu'il y a eu des tableaux, donc on devient artiste aussi parce qu'on a aimé un artiste. Et je crois que c'était parti de là, c'est-à-dire est-ce que les femmes ont des modèles féminins qui leur donnent le courage d'oser entrer dans la création, ou est-ce qu'elles ont des modèles masculins, ou bien est-ce qu'elles n'ont pas besoin de modèles? Et ce qui était arrivé, me semble-t-il, qui était très intéressant, c'était plutôt que, actuellement, peut-être en rupture avec le passé, il y avait des dynamiques. C'est-à-dire que les femmes entraient dans la création, non pas pour accéder à un modèle qu'elle se serait construite ou qu'on lui aurait construite en tant qu'image de l'artiste femme, mais qu'il y avait des dynamiques qui entraînaient des femmes dans des processus de création collective.
On peut en tout cas auto-générer des modèles, c'est aussi, je me souviens, ce qu'on avait évoqué dans cette discussion de préparation.
Je pourrais pas répondre forcément à la notion de modèle ou de représentation. Par contre, il y a peut-être une notion de transmission, de passage de ce qui a existé et de ce que nous, en tant que nouvelle génération, créatrice ou pas d'ailleurs, et quelle implication on a dans la société, ce qu'on en fait. Moi, je sais que je me retrouve pas du tout dans le discours féministe. Parce que j'ai pas cette implication-là, parce que je suis pas une femme qui se positionne dans l'autocensure par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous parlez beaucoup du pouvoir de la femme dans les institutions, mais en dehors des institutions, elle a quand même une place de par sa posture de féminin, sa posture de mère, sa posture d'entrepreneuse et peut-être aussi sa posture d'artiste. Et ma grande préoccupation, c'est qu'est-ce que moi je vais laisser derrière. Et ça n'a rien à voir avec du pouvoir ou se placer en tant que jeu et féminin dans la société, c'est simplement sur cette notion du vivre ensemble. Oui.
Juste très, très rapidement, pour laisser peut-être Sandrine Goldschmidt répondre, et ensuite Françoise Semiramoth, il nous reste à peine 2-3 minutes pour conclure cette conversation, mais qu'on pourra bien entendu poursuivre ensuite en dehors de cet enregistrement.
Et ça sera une réponse et un peu une pirouette pour aborder un sujet qu'on n'a pas abordé et qui me semblait important, pas celui dont j'ai parlé tout à l'heure, mais effectivement la place des femmes, les femmes ont une place, la principale place qu'on leur accorde aujourd'hui dans le monde du travail, et on va étendre la création contemporaine au monde du travail, puisque un certain nombre de femmes essayent de vivre de leur création, et c'est pas facile. La place des femmes dans le monde du travail, c'est 80% des travailleurs pauvres, 80% des salariés au SMIC, c'est une extrême précarité croissante, un temps partiel subi qui est la moitié de 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, et donc je pense que on n'a pas le temps, mais c'est important à inclure dans ce débat, d'autant plus qu'elles sont aussi, elles ont moins de financement et elles sont plus mal payées dans ce domaine-là.
Françoise Semiramoth.
Pour répondre à Julie justement sur la notion de transmission, je serai assez courte, hein. Comme je vous disais, moi j'ai un père qui est peintre, et bien il me l'a dit frontalement, ouvertement, je te passe le relais. Et c'est un homme qui m'a donné cette impulsion, c'est un homme qui a cru en moi, c'est un homme qui m'a toujours appelé sa petite fille et qui continue de le faire, et qui a les yeux pleins d'étoiles quand il voit mon travail. C'est la première personne qui m'a encouragée à aller plus loin dans tout ce que je faisais, à me porter quand justement je me disais, mais je suis une femme, je suis artiste, mais putain, qu'est-ce que c'est dur, quoi. qu'est-ce que c'est dur, quoi, parce que c'est pas si évident qu'on le croit. Aujourd'hui, effectivement, on est à la Friche, on a monté ce projet pour mettre en avant les femmes dans la création contemporaine, etc. Mais je peux vous assurer que ça a été un travail titanesque. Aujourd'hui, je pourrais avoir les bras de Popeye à force d'avoir fait des bras de fer, parce que c'est quelque chose qui nous, voilà, c'est quelque chose qui nous anime. Et effectivement, être féminine, c'est ça, pour la notion de la procréation. Et même si on procrée pas, on crée. Mais en tout cas, ce truc qu'on a au fond de nous, eh ben, c'est ce qui nous a porté aujourd'hui, Lydie et moi, pour pouvoir mettre en place cet événement, pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir vous dire, enfin, donner une voix, enfin, ici à Marseille, parce que visiblement, ce sont des choses qui ne sont pas souvent faites. Et quand il m'a été proposé cette participation par rapport à Cœur de Femme, effectivement, quand on m'a dit « Mais pourquoi c'est intéressant de faire une exposition sur des femmes contemporaines, des artistes contemporaines ?» Eh bien, c'est parce que je ne me reconnaissais pas dans tous les événements qui étaient par rapport à au 8 mars, les droits de la femme, etc. Je ne m'y reconnaissais pas. Et c'était nécessaire, justement, par rapport à la transmission, de pouvoir en parler et de transmettre l'information et de relayer l'information. C'est surtout ça.
Transmettre et relayer, bah c'est peut-être ce qu'on va continuer à faire à l'issue de cette table ronde où je vous remercie toutes et tous d'être venus pour l'écouter et pour y participer. Je remercie particulièrement Françoise Donadieu, Sandrine Goldschmidt, Didier Gourvennec-Ogor, Patricia Guanel, Nathalie Hennick, Sonia Josifort, Jean-François Pascal, Lydie Marquis et Françoise Semiramoth. Et je n'oublie pas bien sûr Sébastien Gély qui était à la technique de cette émission. Merci à tous. Et à tous.
Goodbye. Goodbye, sir.